affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Notre émission de ce jour va nous emmener à la fois au Maghreb, mais aussi à Paris, à Berlin. Elle va surtout nous faire voyager dans le temps, puisque nous allons nous immerger, l'espace d'une petite heure, dans les tumultes des années 20. Ce voyage est celui que nous propose Eddy Kaddour dans son dernier roman, Les Prépondérants, un livre qui a reçu récemment le Grand Prix de l'Académie française, le Grand Prix du roman de l'Académie française. Et qui est peut-être aussi une réflexion sur les tumultes du temps présent, mais nous verrons cela avec son auteur, car il nous a fait l'honneur et la gentillesse d'être parmi nous. Eddy Kaddour, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci à vous. Je vous propose, au démarrage, votre roman commence dans une petite ville de province, dans un pays du Maghreb qui n'est pas défini, je crois. Mais on ressemble beaucoup au Maroc, en fait. Donc, moi, je me suis imaginé que c'était le Maroc, mais c'est peut-être...
D'autres s'imaginent que c'est la Tunisie. C'est très bien, cette ambivalence. Elle est voulue.
Donc, nous sommes dans une petite ville de province, et pourtant, elle ne sera pas, comme on le verra, à l'abri du vent de l'histoire. D'ailleurs, la première partie du livre s'intitule « Le choc ». Pouvez-vous nous parler de ce choc qui va ébranler cette petite communauté de colons, de notables, que l'on aurait pu croire immuable.
Voilà, donc Nabès est une petite ville d'un protectorat français d'Afrique du Nord au début des années 20. On pourra revenir sur ce choix que j'ai fait de ne pas nommer effectivement le pays. C'est une société qui est en même temps une société coloniale. Et une société où l'ordre règne. L'ordre règne, les pays sous protectorat sont des pays qui ont été vaincus. L'un des héros du roman dira le jeune Raouf, qui est un excellent bachelier du système français, dira « On me dit que je suis l'avenir, mais j'appartiens à un pays vaincu ». Et donc, dans cette société coloniale, les colonisateurs, les dominants, en quelque sorte, se donnent pour le haut du panier, en quelque sorte le modèle à suivre. Et voilà qu'arrive dans cette petite ville une troupe de cinéastes de Hollywood venus tourner un film, comme il s'en faisait à l'époque, un film orientalisant. Et les colonisateurs voient arriver au-dessus d'eux, en quelque sorte, des gens qui ont plus de moyens matériels, plus de rythme, plus d'allant, des mœurs plus libres, des femmes plus libres, beaucoup plus tourné vers l'avenir et le progrès, ce qui, pour l'œil des Maghrébins, les déclasse en quelque manière, puisque les Maghrébins font des comparaisons entre les colonisateurs français et les Américains du Nouveau Monde. C'est un peu, il faudrait imaginer l'irruption du monde de Gatsby le Magnifique, si on a vu le film ou lu les nouvelles et le roman de Fitzgerald, l'irruption de ce monde-là dans la société compassée de l'Empire français, de ce qu'on appelait l'Empire français au début des années 20. Donc d'où le choc, effectivement. Alors, qui est un choc, je dirais, dans la vie quotidienne, dans les mœurs. Ça n'est pas un choc politique. Les Américains sont respectueux des traités internationaux, il y a des traités de protectorat, la France est puissance tutélaire. Voilà. Mais c'est plutôt dans la vie, dans les mœurs, que se produisent les troubles. Et par exemple, les Américains n'ont pas du tout la... Alors, ils sont eux-mêmes, la société américaine, une société encore ségrégationniste, mais lorsqu'ils sont au Maghreb, ils appellent tout le monde par son prénom et ils tutoient. Alors, en général, le commandant de la place, il est au fond, il trouve c'est assez amusant. Il trouve ça beaucoup moins amusant quand il se rend compte que les Américains font la même chose avec l'épicier du coin. Autrement dit, qu'ils le traitent sur un pied d'égalité avec l'épicier du coin. Ça met un peu en difficulté.
Est-ce que vous me permettez de lire un bref passage qui décrit l'arrivée de ces Américains, la façon dont il est ressenti? Donc, c'est le début du chapitre 2 qui s'appelle « La trahison ». À la fin du printemps 1922, à Nabès, avenue Jules Ferry, Rania avait assisté à l'arrivée soudaine d'une troupe d'étrangers bruyants qui conduisaient des voitures plus belles que celles des colons français, des décapotables blanches avec d'énormes roues à rayons d'acier et des phares gros comme des têtes de cheval. Ils portaient les pantalons et les casquettes de golf qu'elle voyait dans les journaux. Ils s'interpellaient d'un trottoir à l'autre comme s'ils étaient chez eux. Elle avait mal supporté. Elle était à l'intérieur de son cabriolet, donnait le signal du départ au cocher quand son cousin, Raoult, s'était approché et lui avait adressé la parole avec respect. Elle n'avait pas eu besoin de le questionner. Il était fier à 18 ans d'en savoir plus qu'elle. Oui, c'était des Américains. Ils venaient tourner un film, Le Guerrier des Sables. Elle était fascinée et hostile, regardait en silence, se disait « Ce sont les gens des temps qui viennent ».
Oui, et Rania est l'un des principaux personnages du roman. C'est une jeune veuve d'un maghrébin lui-même qui est mort pour la France pendant la guerre de 14-18. Et elle est à la tête d'un domaine agricole de la région.
C'est une notable.
C'est une fille de notable, c'est une fille de grand notable de la capitale. Comme elle commence à avoir... Elle a été formée dans la culture de l'arabe classique et la culture française. Elle lit aussi bien les romanciers égyptiens qui parlent de libération de la femme. À l'époque, ça se faisait déjà beaucoup, en langue arabe. Elle lit aussi bien donc ces romanciers-là que les livres français, La Nouvelle Héloïse. Voilà. Et son père, comme elle commence à être prise un peu dans les mouvements nationalistes de la capitale, pour éviter de lui de la laisser faire des bêtises, comme il dit, la met à la tête de ce grand domaine dans le sud, où elle réussit assez bien parce que ce sont des choses pratiques, et les choses pratiques, ça tient les larmes à l'écart.
Voilà. Justement, ce personnage inquiète tout à la fois l'administration coloniale. Il y a un moment où on voit que... mais également la société traditionnelle de ce pays-là. C'est pour ça qu'il est central, parce qu'il est en marge de ces deux mondes qui finalement s'opposent mais s'imbriquent. Que représente-t-elle, Rania? Pourquoi est-elle devenue le personnage principal?
Elle est devenue le personnage principal de façon, je dirais, presque un peu imprévisible, comme ça se passe souvent pour les personnages de romans. Au départ, c'est une jeune femme, une jeune veuve, je l'avais installée comme ça dans le roman. Elle n'était pas du tout le protagoniste qu'elle est devenue. Au point d'ailleurs qu'au bout de 2 ans et demi de rédaction du roman, j'ai mis 5 ans et demi à le rédiger, mais au bout de 2 ans et demi, si je me souviens bien, le roman qui commençait sur le chapitre que vous venez de lire, ça c'était le chapitre 1, a commencé par Rania. Autrement dit, Rania a pris une telle importance qu'elle a occupé le seuil du roman, l'arrivée des Américains devenant le chapitre 2. Alors, pourquoi ? Un personnage, on ne sait jamais comment il va évoluer quand on écrit un roman. Et si on a une idée préconçue sur le personnage, il va trop ressembler à ce qu'on attend de lui. Et au fond, les lecteurs vont vous deviner. Donc, c'est important que le roman laisse le personnage s'inventer et que l'auteur assiste, au fond, au développement du personnage. Il m'est arrivé des matins comme ça de commencer à travailler et vers 3h de l'après-midi d'avoir trouvé au sujet de Rania des choses que j'étais loin de soupçonner quand je m'étais mis à travailler le matin. Oui. J'avais une image en particulier et c'est peut-être pour ça qui est un peu porteur quand vous avez une... Les romanciers ne sont pas sérieux, ils travaillent avec des images. Ce ne sont pas des gens du concept, du déroulé des concepts. Ils travaillent avec des images qu'ils essayent ensuite de composer avec des voix, avec des mots, avec de la résonance entre les mots. Et j'avais une formule qui était un dicton d'arabe parlé du Maghreb, qui est le vent est le compagnon des veuves. Et j'ai vu cette jeune femme comme ça marcher seule dans la campagne, en plein air avec le vent. Et elle a soudain pris, je dirais, une importance sensible. Pas du tout conceptuelle, mais une importance sensible qui m'a beaucoup nourri pendant que le personnage évoluait à l'intérieur du roman. Alors, c'est une jeune veuve et fille d'un grand notable, ça veut dire qu'elle a un peu plus d'espace que ce que j'oserais appeler une simple jeune fille à marier. Mais ça ne veut pas dire qu'elle
échappe... Elle est jalouse de son espace, d'ailleurs.
Elle est très jalouse de son espace, d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'elle échappe aux contraintes de la tradition. Elle vit quand même dans une société traditionnelle. Elle a un frère aîné. Et le père est gâteux de sa fille. Il la laisserait faire n'importe quoi, ce qu'elle a envie de faire, à condition qu'elle ne court pas de risque. Mais le frère aîné, lui, il veut jouer son rôle de frère aîné en société traditionnelle, c'est-à-dire qu'il veut la remarier. Il veut la remarier, si possible, un mariage pas trop reluisant, parce qu'il veut rester le successeur dans la famille élargie. Il ne tient pas à avoir un beau-frère qui lui ferait de l'ombre. Rania n'est pas dupe, d'ailleurs, elle dit à un moment donné dans le roman, il a raté son mariage, il faudrait que le mien soit pire. Voilà. Et en même temps, elle a cette résistance très forte. Et pour elle, une partie de son existence romanesque, ce sont les ruses qu'elle va devoir déployer pour échapper justement à cette infamie du mariage arrangé par le frère aîné. Ça ne veut pas dire que pour elle, la modernisation, le progrès, soient uniquement des facteurs positifs. Elle est par exemple en butte, elle est en conflit avec un grand colon de la région qui veut lui imposer un échange de parcelles agricoles dans lequel elle ne serait pas obligatoirement gagnante. Et elle refuse, elle résiste en disant « les colons peuvent quand même pas tout ». Je refuse d'être traité comme un sac. Voilà, elle a une capacité de résistance. Elle a aussi une capacité d'action. Elle gère très bien son domaine. Les paysans disent d'elle, elle a l'œil d'un maître, celui qui engraisse le bétail. Voilà, donc ça fait d'elle un... Alors, et en même temps, elle rêve d'Occident, bien sûr. Elle rêve d'Occident tout en étant assez lucide sur ce que c'est. À travers quoi ? À travers la presse. À travers la presse, à travers l'illustration, à travers d'autres journaux, à travers ses amis qui, à partir du moment où les Américains arrivent, sont les deux jeunes femmes, l'actrice, la star du film, Catherine Bishop, la journaliste parisienne qui est en reportage, qui s'appelle Gabrielle Conti, et puis à travers les journaux. Par exemple, dans l'illustration, c'est par l'illustration, le grand journal français de l'époque, le magazine, qu'elle a accès à ce qui est en train de se passer en Turquie. Le pays où Mustafa Kemal est en train de laïciser à marche forcée son pays. Et elle rêve devant cette photo de la femme de Kemal Atatürk, habillée à l'occidental, une toque d'astrakhan sur la tête, à cheval, et passant en revue les troupes aux côtés de son mari. Voilà. Et le personnage est un peu campé, en quelque sorte, comme ça. Mais maintenant, un personnage, ce n'est pas seulement une silhouette et des idées, hein, dans un roman. Ça a beau être une jeune veuve, c'est quelqu'un qui va assez rapidement être repris par le désir. Et elle va, comme on dit, tomber amoureuse, à nouveau, d'un homme. Alors, elle va être amoureuse en secret. En secret parce que c'est une société où l'amour est aveugle, mais pas les voisins. Voilà. Donc il faut faire très très attention. Et en même temps, elle n'ose pas se déclarer, elle n'ose pas faire savoir qu'elle est amoureuse, surtout pas à l'homme en question. Donc elle garde ça pour elle. Elle a peur d'un refus en même temps. Elle en vient à se dire le seul monde où je peux m'asseoir à côté de lui, c'est quand je ferme les yeux. Donc une forme de désir, mais qui est en même temps un désir à la fois violent et mélancolique, parce qu'elle ne voit pas très bien. Alors après, dans le roman, on apprendra qu'elle aura réussi d'une façon ou d'une autre, évidemment, à arriver à ses fins, mais à travers un certain nombre d'énigmes.
Oui, il ne faut pas tout dire. Hein, parce...
oui.
Vous savez, ce que je me suis dit en voyant ces développements-là et d'autres types de relations entre les hommes et les femmes, ça occupe une grande partie du roman également. Il n'y a pas que le grand souffle de l'histoire, mais leur rapport, mais qui s'insère aussi d'ailleurs dans la mutation des mœurs, le désir qui vient, évidemment,
oui.
C'est les Américains. Mais ce que je me suis dit, c'est que dans une société traditionnelle permet des développements romanesques quand même autrement plus subtils et intéressants qu'une société telle que la nôtre aujourd'hui où les rapports hommes-femmes peuvent être beaucoup plus directs et immédiats.
Oui, mais c'est par exemple assez amusant de voir comment dans certaines comédies modernes et contemporaines, la hantise de l'aveu peut encore faire le sujet d'un film. Vous voyez, les mœurs se sont libérées, mais il y a des circonstances dans lesquelles avouer sa passion est un exercice tout aussi difficile que naguère et jadis.
Mais du coup, on revient dans l'intime, vous voyez, alors qu'ici, on a un jeu à plusieurs protagonistes, le frère, la société, vous l'avez dit, les voisins, la tradition, le désir qui est quand même là, parce que tout ça n'empêche pas le désir. Et au contraire, peut-être, il y a quelques pages d'ailleurs où c'est dit explicitement, c'est-à-dire que le désir croît, parce qu'il ne peut pas être assouvi immédiatement, et il en devient d'autant plus fort, mais peut-être aussi plus façonné.
Oui, et puis bon, en même temps, elle n'est pas la seule à désirer dans le roman. Parce que c'est effectivement, c'est vrai qu'un roman, ce sont d'abord des personnages qu'on lance à l'aventure, comme ça. Hein. On prend des personnages, on les envoie sur les routes, on leur fait traverser les mers, on les met dans des trains, et puis on voit ce qui va leur arriver. Donc il y a le côté roman d'aventure. Mais c'est vrai aussi que comme ce sont des êtres humains, c'est aussi un roman des passions. C'est-à-dire, évidemment, il y a le désir amoureux, il peut y avoir la jalousie, il peut y avoir la vengeance, il y a un certain nombre de constantes comme ça qui jouent, qui, au fond, se jouent aussi des personnages, alors qu'eux-mêmes se croient d'abord maîtres des choses. Et puis, le tout se passant, c'est vrai, sur un fond de ce que j'appellerais, et vous l'avez d'ailleurs signalé dès le départ, sur le fond de ce qu'on pourrait appeler un roman-monde. Voilà. C'est-à-dire une scène qui n'est pas réduite à un quartier de tel protectorat ou un quartier de Paris, mais une scène qui englobe des mondes différents, des cultures, des langues différentes, des mondes qui s'observent, pas des mondes qui sont simplement côte à côte, mais des mondes qui se confrontent les uns aux autres, avec à l'intérieur de rapports de force, éventuellement. C'est ça qui était intéressant aussi pour moi, à l'arrière-plan du roman, d'observer cette interaction des mondes les uns par rapport aux autres. Qu'est-ce qui est en train de se passer, par exemple, avec un nouveau monde qui est en train de surgir, celui qui est incarné par la puissance américaine, et un ancien monde qui est encore dans son illusion, qui est, au fond, la puissance française.
Celui des prépondérants.
Justement. Et qui est en même temps aussi, dans la société coloniale, celui des prépondérants, c'est-à-dire, là, on va venir effectivement au titre du roman. Ils ont vraiment existé. C'était le groupe de pression le plus puissant, le mieux organisé du Maghreb. Et ils auront réussi à faire échouer, entre 1900 et début des années 1950, ils auront réussi à faire échouer tous les projets de réforme et de progrès qui auront pu être tentés d'être mis en œuvre au cours de cette première partie du XXe siècle. Et en particulier en 1922, ils vont réussir. Alors c'est ça aussi qui est intéressant quand vous êtes romancier, parce que vous travaillez dans de la documentation. Mais au fond, qu'est-ce qui vous intéresse? C'est pour ça que je répéterai encore que les romanciers ne sont pas sérieux. Le propos du romancier n'est pas l'exhaustivité de la fresque historique à l'arrière-plan. Ça, c'est un vrai travail d'historien qui préparait, par exemple, un grand manuel de l'histoire de la colonisation. C'est pas du tout. C'était pas du tout.
Dieu merci, ce n'est pas le cas. Hein.
C'était pas du tout mon propos. En revanche, quand je fouille dans les archives de la Bibliothèque nationale ou des bibliothèques allemandes ou anglo-saxonnes, j'y vais comme on va à la pêche. C'est-à-dire que j'essaie de trouver dans ces archives, dans l'histoire, en grattant la roue historique, j'essaie de trouver des choses dont je peux me dire c'est pas possible et ça s'invente pas. Vous voyez, des événements qui présentent une telle violence et une telle singularité que ça en devient extrêmement intéressant. Si ça l'est pour moi, il y a des chances que ça le soit également pour le lecteur. Et donc, dans les archives, en 1922, qu'est-ce que je trouve? Je trouve un projet de loi à l'Assemblée nationale à Paris qui prévoyait d'accorder l'indépendance, une forme de constitution et des libertés fondamentales au protectorat du Maghreb. Je vous rappelle que les protectorats sont des mandats qui ont été donnés à la France par traités internationaux, à charge pour elle de guider les pays qu'elle protégeait sur la voie du progrès et de l'indépendance. Alors, la colonisation, les colonisateurs avaient assez vite décidé que oui, les guider sur la voie, etc., progrès, tout ça, c'est pour plusieurs générations et des générations de générations.
La voie est longue.
Voilà, la route sera longue, ça peut se chiffrer en demi-siècle, même siècle, etc. L'essentiel, c'est là, on domine, on a gagné, on a la force, le statu quo, c'est ce qu'il y a de mieux. Or, contrairement à ce que pensent les milieux coloniaux, à l'Assemblée nationale, il y a des gens qui sont en même temps des politiques, qui savent qu'ils vivent au XXe siècle déjà, qu'il y a une déclaration du président Wilson qui a résonné pendant tout le traité de Versailles, toutes les négociations aussi, qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ce projet de loi, donc, accorderait... Alors jusque-là, si vous voulez, bon, ça me paraît, bon, c'est un projet de loi, etc. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est lorsque vous regardez les signatures du projet de loi. Et les signatures du projet de loi, elles sont assez étonnantes. Vous avez Maurice Barrès, qui est l'un des très grands de la droite nationaliste. C'est l'un de ceux qui ont emmené, en quelque sorte, la France à la déclaration de guerre en 14 et qui ont entretenu le mythe de l'Union sacrée qu'il entretient encore. Maurice Barrès, donc la droite nationaliste. Vous avez un prince Murat qui représente à l'époque encore l'autre grande composante de la droite française, la droite bonapartiste. Vous avez les grands milieux d'affaires avec un baron de Rothschild parmi les signataires. Vous avez les signatures de tous les partis du centre, radicaux, radico-socialistes, indépendants, etc. Et vous avez la gauche. Autrement dit, vous avez un arc-en-ciel assez important qui est prêt à signer et à faire passer ce projet de loi. Et les prépondérants, en quelques mois d'intense
lobbying, comme on dirait aujourd'hui,
vont réussir à faire capoter le projet. Total, ce que nous n'aurons pas fait en 1922, il faudra le refaire 30 ans après, dans des douleurs autrement plus vives, au début des années 50, à partir du début des années 50, dans des douleurs autrement plus vives que ce que ça aurait représenté en 1922.
De fait, la société que vous décrivez n'est pas celle seulement d'une confrontation ou de rapport de force. C'est aussi une société où on échange, où certes on se jauge, mais aussi où on se féconde. Un des personnages, pourtant l'un des plus réactionnaires de prime abord du livre, est aussi un de ceux qui a décidé d'apprendre l'arabe et qui finit en léguant une partie de sa bibliothèque au Père Blanc, ce qui un pont lancé entre deux cultures également.
Oui, il faut compter aussi avec la nécessité de vivre. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir également être en situation de domination, où les dominés peuvent trouver aussi un avantage à maquiller en hospitalité ce qui leur a été imposé par la force. Oui. Il y a toute une série de formes d'hypocrisie sociale. La vie peut cependant avoir du goût, et les relations entre les gens peuvent effectivement prendre un certain goût, à condition que les principes fondamentaux ne soient pas touchés. C'est-à-dire que chacun y soit à son rang et à sa place. Quand il y a quelque chose qui se passe, en particulier au niveau des relations amoureuses, quand quelque chose se passe entre une occidentale et un maghrébin, là, la réaction peut être extrêmement vive. Du côté des traditionalistes, il peut y avoir une formule qui veille, vous voyez. Les intégristes à plan ayant une formule pour les occidentales qu'ils voyaient et qu'ils voient aussi ou encore aujourd'hui au bras d'un maghrébin. Ils appellent ça Bagrat Shaitan, c'est-à-dire une vache de Satan. Oui, la formule est absolument délicieuse. Et de l'autre côté, dans le roman, il y a un incident à Paris, une promenade dans un jardin, quand un Parisien voyant passer Raouf, accompagné de Catherine et de Gabriel Conti, lâche, après les avoir laissés passer, après les avoir croisés, Payas Amorico. Oui. Donc la censure est immédiate. Tout va bien tant que chacun son rang, chacun sa place est respecté. Dès qu'il y a une interférence, une intersection, etc., là, les mondes entrent en conflit très vite.
Et l'ensemble de ces mondes sont confrontés à l'irruption de la modernité et doivent se positionner par rapport à celle-ci. C'est l'un des, j'ai ressenti ça comme l'un des thèmes du roman également. Comment chacun peut-il se positionner par rapport à ce nouveau monde qui est en train de naître, qui est peut-être plus libre, mais aussi plus dangereux, et dans lequel chacun doit s'inventer lui-même, ce qui est finalement une lourde tâche.
Oui, on le voit bien, par exemple, pour l'un des autres personnages du roman, pour le jeune Raouf, hein, qui lui aussi a été élevé dans les deux cultures. Élevé dans la culture de l'arabe classique et la culture française, puisque c'est un excellencier du lycée français. Les Français laissaient passer avec beaucoup de précautions, de temps en temps, un personnage comme ça à travers l'ensemble de leur système scolaire. Et Raouf a été reçu au Bachot dans un très bon rang. Mais au fond, étant le pur produit, de ce point de vue-là, du système colonial, ou du mythe colonial, évidemment, il en renverse les attentes, puisque lui, ce à quoi il pense, c'est plutôt à la Révolution. et avec ses regards tournés vers Moscou, qui à l'époque, au début des années 20, n'a pas encore été glacé par le stalinisme. Hein. L'espoir est encore à peu près intact, c'est violent, il y a de la guerre civile, mais on ne sait pas encore ce que ça va réellement donner. Et la révolution est encore un espoir très vif dans beaucoup de pays du monde sous domination coloniale.
Oui, on passe du prisme du colonialisme à celui de la lutte des classes également.
Voilà, exactement. Oui.
Dans votre roman, on est surpris de ce passage. Vous avez dit que c'est un roman monde, de fait, mais la communauté que vous décrivez au départ est-elle même une sorte de condensé du monde, non ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir les lancer ? C'est un désir de souffle épique, d'apporter un contrepoint
C'était un désir de circuler en même temps. Oui, c'était un désir de circuler, de pas rester dans le même endroit, d'ouvrir la porte et de partir sur les routes. Effectivement. Alors, dans la composition romanesque, le départ vers l'Europe, il est dû à deux choses. La première chose, c'est un désir de Catherine Bishop, l'actrice américaine, qui veut aller à Berlin. Parce que son rêve, c'est de tourner dans un film qui serait une œuvre d'art. Et elle n'est pas sûre que son mari, le réalisateur Neil Daintree, qui incarne un peu cette génération de bons réalisateurs de l'époque, elle n'est pas sûre que son mari soit capable de la faire tourner dans une véritable œuvre d'art, alors qu'en revanche, Berlin, c'est Murnau, c'est Lubitsch, c'est Lang, il y a déjà un très très grand cinéma. Le cinéma est mondial à l'époque, hein, ils connaissent bien les œuvres des uns et des autres, et ça circule. Et donc elle veut aller à Berlin, en passant évidemment par Paris. Ça, c'est l'une des raisons. L'autre raison, c'est que le jeune Raoumf, à l'issue d'un phénomène de vengeance qui s'est accumulé, a été dénoncé à la police française de la capitale. Et pour éviter qu'il ne soit mis en prison, son père, qui est en même temps un grand notable qui travaille avec la France, hein, comme il le dit lui-même, il faut toujours nager près du bateau. Mais voilà. Effectivement, il sait que le pays est vaincu, donc on nage près du bateau. Mais il demande à Gantier, justement, l'un des grands colons, d'accompagner son fils en France pour que le jeune homme se fasse oublier et évite ainsi la prison. Voilà donc, dans la composition romanesque, les deux raisons qui poussent ce groupe de quatre personnages, Gantier et Raouf, et puis Catherine et Gabriel Conti, à aller vers Berlin en passant par Paris. Voilà. Et dans l'entre-deux, évidemment, le passage par l'Alsace, qui était un peu l'envers, parce que l'Alsace avait été colonisée par les Allemands entre 1870 et 1918, et Raouf voit donc ce qui se passe dans un pays français qui avait été occupé à l'issue de la défaite de la France par une puissance étrangère, colonisé à sa façon. Et donc il y a des effets comme ça de miroir et de regard, d'ironie de l'histoire, en quelque sorte, qu'on va d'ailleurs retrouver plus loin en Allemagne. Parce que c'est l'époque où Poincaré fait occuper en Allemagne la Ruhr, la région minière allemande, pour obliger les Allemands à payer les réparations de guerre. Et là aussi, il y a une scène qui va marquer Raouf, parce qu'il y a une manifestation de protestation des Allemands un matin, et ils observent ça Raouf et ses amis, Gantier, Gabriel et Catherine, observent ça des fenêtres de leur hôtel qui donnent sur la place. Et Raouf découvre que les manifestants allemands ont en face d'eux des troupes françaises chargées de réprimer la manifestation. Et il s'aperçoit que les troupes françaises chargées de réprimer la manifestation d'un pays que la France occupe sont les troupes d'un pays que la France occupe également, parce que ce sont des tirailleurs maghrébins qui sont chargés de maintenir l'ordre au nom de la France dans l'Allemagne occupée. Et ça, il y avait en même temps là quelque chose aussi d'une espèce d'ironie de l'histoire. Et surtout, c'est pas possible et ça s'invente pas. En fouillant dans les archives, je ne sais pas si j'aurais gardé cette scène si j'avais eu seulement cette découverte par Raouf que l'ordre allait être maintenu par les tirailleurs maghrébins. Mais j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus grinçant encore, c'est que au moment où la situation se tend, y a un chant qui s'élève sur la place, et ce chant, c'est la Marseillaise. Et ce n'est pas les Français qui le chantent, ce sont les Allemands. Le Kinder des Vaterlands, c'est-à-dire la Marseillaise en allemand, parce que la Marseillaise est un chant révolutionnaire. Elle est un chant révolutionnaire allemand. Les Allemands ont fait leur révolution de 48, ils se sont fait massacrer en 48, pendant leur révolution de 48, aux accents de la Marseillaise, qui à l'époque est un chant révolutionnaire européen. Et là, quand j'ai découvert ça, je savais que la scène aurait effectivement toute son ampleur. Voilà, c'est en partie pour toutes ces raisons-là que le roman passe aussi par Paris, par l'Alsace et par l'Allemagne.
À travers votre livre, je suis navré parce que je vais finir par en faire un roman à thèse, mais il faut bien parler sans révéler toute l'intrigue. Et c'est l'avantage quand on parle de la thèse, c'est qu'on ne révèle pas toutes les intrigues, les rebondissements de la trajectoire des personnages.
Non, parce qu'en même temps, c'est le problème de la thèse, si vous voulez, c'est qu'on en a une éventuellement au départ. Mais le premier ou le deuxième mois, on en a une, elle est un peu molle, le colonialisme, c'est pas bien, etc. Et puis, quand vous composez un roman, le travail romanesque, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste à créer des voix, à créer des personnages, à créer des voix, à développer ces voix, à les harmoniser les unes par rapport aux autres, à leur donner toute l'ampleur dont elles ont besoin pour exister. C'est-à-dire que même quand un personnage ne vous plaît pas parce que c'est un intégriste, vous vous rendez compte que si vous voulez en faire un vrai personnage de roman, et pas seulement une créature d'arrière-plan ou de second plan, il va falloir lui donner de l'épaisseur, il va falloir lui donner de la profondeur. Et donc, vous finissez par disparaître derrière l'ensemble des voix que vous mettez en scène. Voyez, et c'est vrai qu'à la fin du roman, à la fin des romans que j'écris en général, ça m'est arrivé pour Waltenberg comme pour celui-là, les prépondérants, j'ai le sentiment de m'être écrit en mille morceaux. Oui, de finir en mille morceaux parce que au fond ce sont les voix des personnages qui parlent, et si le roman est réussi, il y a aussi un montage de la voix des personnages les uns par rapport aux autres, une composition, un montage, et au fond la grande voix qui parle dans tout ça, c'est pas la vôtre, c'est pas celle d'un romancier à thèse qui rendrait les choses catastrophiques. La grande voix qui parle, c'est la voix du montage. C'est-à-dire que le montage dit effectivement quelque chose de complexe, de feuilleté, et qui n'est pas de l'éditorialisme à la petite semaine. Voilà. C'est passé par l'esthétique du roman.
C'est-à-dire ce qu'on ressent en lisant votre livre, c'est de la bienveillance aussi. De la bienveillance pour les êtres humains.
Oui, mais je suis...
Aucun personnage qui soit descendu... Il n'y a pas de personnage descendu en flammes.
Disons, il y en a avec lesquels on n'aime pas trop faire route, mais ils ont droit effectivement à une forme d'existence romanesque. Hein. On le voit bien, par exemple, pour le personnage de l'intégriste. Il est apparu au moment où j'ai vu cette formule « Bagrat Shaitan ». Je suis moi-même ce qu'on appelle un couscous pommes frites en toute délicatesse, c'est-à-dire que ma mère était pied-noir d'Algérie et mon père tunisien. Je peux également être sensible à ce genre d'insultes. Hein. Et donc, quand je l'ai vu apparaître avec cette formule, je lui ai dit « Toi, mon salaud, je vais te plomber. » Bon. Et c'est vrai que je l'ai plombé au départ. Quoi. Il y a un hypocrite, un radin, etc. Bon. Et puis, je me suis rendu compte que ça marche. Hein. Un intégriste comme ça marche. Si vous faites un pamphlet, si vous faites un conte philosophique, ça marche, pas de problème. Si vous faites un roman, si vous voulez que le lecteur s'embarque en même temps dans les conflits que vit ce personnage, il va falloir être un peu plus dense que ça. Et donc, il va falloir le doter d'une vraie personnalité, de vraies contradictions, ce qui va être beaucoup plus difficile et au fond beaucoup plus gratifiant pour le romancier. Il y a aussi l'autre chose, c'est que j'aime bien vous appeler à ça de la bienveillance. Je suis pas sûr d'être spontanément bienveillant. J'ai plutôt la réputation d'être quelqu'un de vachard, mais j'ai toujours les deux fils en même temps, c'est-à-dire que c'est un roman qui présente effectivement des aspects assez dramatiques par moment, mais en même temps il y a toujours des moments comiques. J'aime bien le rire, j'aime bien la détente que procure le comique, et donc et je m'amuse bien en écrivant des séquences comiques. Donc quand j'ai l'occasion d'en écrire une, je la rate pas. non plus. Vous voyez, quand j'avais une scène de souk, une scène qui se passe dans un marché en plein air, un souk à décrire, j'avais ce souvenir, effectivement, vous savez, à l'entrée des souks, les ânes sur lesquels les paysans sont venus au marché pour vendre ou acheter, ces ânes-là sont parqués à l'entrée des souks. Donc ça vous fait des parkings à ânes de plusieurs centaines de bestiaux, les ânes d'un côté, les ânesses de l'autre. Et,
une grande souffrance pour ces animaux.
Voilà, c'est une grande souffrance pour ces animaux. Certains d'entre eux trouvant cependant le moyen d'essayer de passer le temps de façon agréable, et ça donne effectivement lieu à une scène dans laquelle je me suis bien amusé.
Et pour la raison que vous comprendrez, je ne le lirai pas... Je ne lirai pas à l'antenne, évidemment. Je demande aux auditeurs de se rapporter à la lecture du livre qu'ils ne manqueront pas de faire. Est-ce que je peux vous demander quels sont vos maîtres en littérature ? Alors, moi, ce que j'ai pressenti en le lisant, mais j'ose à peine le dire parce que ça peut ressembler à de la flagornerie, j'ai pensé d'une part à Tolstoï, car il y a épais, car les personnages ont également cette épaisseur et vivent de leur vraie vie. Et en même temps, le souffle de l'histoire, et de l'autre, de façon peut-être un petit peu plus intériorisée, à Stendhal. Est-ce que je fais complètement fausse route enfin, c'est difficile de récuser ce type de filiation, d'ailleurs, mais bon...
Non, mais c'est vrai, si vous voulez, que je pourrais dire que j'ai un auteur favori par semaine. Quoi, je dirais que pendant que j'écrivais, il y en a deux que je relisais de temps en temps, à cause de la voix. Parce que le gros problème quand vous écrivez comme ça, c'est le timbre, la tonalité de la voix narrative. Et c'est assez difficile à obtenir. Une voix narrative qui est la qualité sonore que vous cherchez, parce que c'est elle qui va porter le roman. Et de temps en temps, je relisais soit de William Faulkner, un de ses romans de la trilogie des Snobs, le premier, le Hamlet, le Hameau. Et puis, il y en a un autre de Claude Simon, que j'aime beaucoup, qui est son seul grand roman en troisième personne, qui est L'Acacia. Là aussi, il y a quelque chose de très fort dans la voix narrative. Alors, je vais peut-être rejoindre, en parlant d'une troisième œuvre, la notion de bienveillance que vous évoquiez tout à l'heure, et que j'ai un peu corrigé en disant que je n'ai pas l'impression d'être bienveillant. Mais... j'ai toujours été en admiration devant une voix qu'on appelle la voix off au cinéma, une voix narrative qui commente l'action qu'on a de temps en temps au cinéma. Et il y en a une qui est vraiment un miracle d'acuité et d'humanité en même temps, de précision et de tendresse, tout en étant très très lucide. C'est la voix de la voix narrative du film de Truffaut, Les Deux Anglaises et le Continent. Il y a là un miracle de réussite esthétique que je n'ai pas retrouvé dans d'autres films. Même dans Jules et Jim, elle n'a pas cette qualité. Mais c'est vrai que quand je me sentais un peu la voix trop sèche, la voix trop dominatrice, vous savez, la voix narrative essaie toujours de dominer un peu les choses, je me rendais compte que c'était trop dominateur, trop sec, je me refaisais un peu de passage par Les Deux Anglaises et Le Continent et la voix narrative mise au point par Truffaut pour ce film. Voilà un peu les trois. Je les ai pas utilisés en tant que chef-d'œuvre, si vous voulez. Je les ai utilisés un peu comme, vous savez, avant de chanter, on donne le la. Voilà, comme ça. Voilà. Et donc je me relisais à voix haute un peu de Faulkner.
Des diapasons.
Comme un diapason, quoi. Un peu de Faulkner, un peu de Claude Simon, et j'écoutais un peu de Les Deux Anglaises et Le Continent.
Alors bien que le livre soit effectivement souvent...
Alors pour Stendhal, vous n'avez pas tort. Également, bon, je suis un grand admirateur de Stendhal. Peut-être qu'il y a quelque chose de... Pour le rythme, effectivement, il y a ce rythme extraordinaire des débuts de La Chartreuse de Parme, hein, dans lequel nous sommes tous à jamais jaloux. Et peut-être également pour le côté, comment dire ça, occasion, illusion perdue, occasion ratée, enfin, tristesse de Lucien Levenne, voilà, c'est ça.
Oui, le livre baigne dans une certaine mélancolie. Il y a un côté, oui, occasion manquée à titre historique aussi, non ? Est-ce qu'on n'est pas plongé dans la période des occasions manquées ?
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement une période des occasions manquées, hein, que ce blocage de la situation coloniale au début des années 20. À l'époque, d'ailleurs, les Anglais, en 22, accordent l'indépendance à l'Égypte. Alors, bon, c'est une indépendance à l'anglaise, hein, il ne faut pas non plus en faire une montagne. Ce qui intéressait les Anglais, c'était essentiellement le canal de Suez, d'ailleurs, en même temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'ils ont fait à ce moment-là a permis le développement, au fond, le développement politique et social de toute une bourgeoisie et de toute une élite qui fait, au fond, de l'Égypte assez durablement, pendant quelques décennies, un des lieux de référence de la vie intellectuelle dans le monde arabe.
Est-ce qu'à travers les thèmes abordés dans le livre, tension entre tradition et modernité, rapport homme-femme, dominant-dominé, relation France-Maghreb aussi, rôle et définition difficile de l'identité dans un monde en ébullition, est-ce que vous avez souhaité, ou est-ce que c'est juste né comme une évidence, apporter sinon des réponses, au moins une réflexion sur des enjeux qui sont aussi ceux du temps présent ?
Non. Non. Je faisais un roman, si vous voulez. Voilà, c'est pour ça que... Et je n'ai pas de vocation à être éditorialiste du présent. C'est le... Il y a une formule de Thomas Mann au début de La Montagne Magique qui dit que le romancier, c'est le Raunender Beschwörer des Imperfects, c'est l'énonciateur murmurant de l'imparfait. Vous voyez, j'aime beaucoup cette définition de Mann. J'ai besoin d'un petit siècle pour que la fiction puisse se libérer, dégager de toutes les contraintes de référence de l'actualité. Et ça permet effectivement de plonger dans l'imaginaire, hein, en même temps, tout en permettant de faire ce travail d'enquête que j'aime bien faire, qui est celui du grattage de la rouille historique, pour redonner en quelque sorte une vie à un passé que nous avons trop tendance à oublier, parce que le marché essaye de nous mettre en permanence en état d'amnésie, pour que nous puissions acheter comme nouveau les camelotes qui nous sont présentées tous les mois. Et donc une bonne façon de lutter contre l'amnésie, c'est justement d'écrire ces romans à l'imparfait et d'exhumer ce qui a pu se passer à l'époque. Voilà, donc j'avais absolument pas comme propos de me dire ça va éclairer ce que nous vivons aujourd'hui. Il se trouve simplement que c'est un siècle court. Hein. Il n'y a même pas 100 ans entre ce début des années 20 et puis notre période. Ce que je peux peut-être repérer sont des effets d'ironie. Vous voyez, si vous voulez avoir de vraies informations sur la période, il faut interroger des gens qui ont travaillé sur la période actuelle. Il faut interroger des gens qui travaillent depuis 10, 20, 30 ans. Des gens comme Olivier Roy, comme Henri Laurence, Fethi Ben Slama ou Kepel. Hein, voilà. Bon, donc c'est des gens comme ça. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir que la génération... de maghrébin qui parvient en quelque sorte à l'âge de la lutte politique au début des années 20 est une génération laïcisante ou laïque. Parce que c'est une génération pour laquelle, à tort ou à raison, peu importe, la situation coloniale, la défaite qui a été vécue par ces pays, était due à un état d'arriération qui s'était accumulé pendant des siècles. Et pour beaucoup de ces gens-là, cette situation d'arriération était due en grande partie à la religion, à certaines pratiques religieuses, à certaines façons de pratiquer la religion, à la religion telle qu'elle avait été imposée par les Turcs, peu importe. La religion était liée effectivement à cet état de retard. D'où effectivement l'idée que c'est du côté de formes laïques observées chez les vainqueurs que se trouvaient peut-être les perspectives. Alors ça peut être définitif et violent, comme chez Kemal Atatürk, qui va laïciser le pays à marche forcée. Ça peut être plus, plus progressif, plus réformateur en quelque sorte, y compris de la religion, chez des gens comme Cheikh Abdou, par exemple, qui était un réformateur religieux. Mais d'une façon générale, la revendication d'une constitution est une revendication qui est une revendication d'ordre laïque et qui s'oppose aux tenants de la lettre religieuse pour lesquels il n'y a pas besoin de constitution puisque le livre est là et tient lieu de constitution. Voilà. Alors après, effectivement, on peut se dire qu'une fois que ces générations-là seront arrivées au pouvoir, avec le retard historique des luttes coloniales, que leur ont imposé les luttes coloniales, c'est peut-être de l'échec de ces générations-là, à partir du début des années 70-80, il va y avoir un retournement. Et que certaines formes de laïcisation, qui apparaissaient comme libératrices au début des années 20, vont se trouver en but à des accusations, et on va assister à ce qu'on pourrait appeler un retour du religieux. Mais encore une fois, vous voyez, je fais ça avec d'infinies précautions, c'est vraiment des idées générales, je m'en veux presque de faire du propos presque de comptoir, vous voyez, sur la question, il faudrait vraiment interroger de vrais spécialistes.
Oui, ce ne sont pas des propos de comptoir, et en fait, je pensais plutôt à la façon dont chacun peut se positionner, non pas par rapport à simplement cet enjeu religieux, mais par rapport à une période de tumulte et la façon dont il doit se définir, s'inventer. Et je ne pense pas spécialement aux relations France-Maghreb ou rapport à l'islam, mais plus à la façon dont chacun d'entre nous, aujourd'hui, confronté aussi à un autre grand bain, peut trouver des réponses dans les postures, les attitudes, les interrogations et surtout les doutes de vos personnages. Vous voyez, quand vous avez cité Thomas Mann, l'imparfait, j'ai d'abord pensé à l'imperfection. Est-ce que les personnages sont touchants et réels parce qu'ils sont imparfaits?
Mais Mann joue beaucoup sur les différents sens du mot imparfait. Hein. Là, il en joue. Et encore une fois, c'est un roman. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'invente, que le romancier laisse s'inventer avec une part d'irresponsabilité. Vous voyez, le romancier, son travail, c'est la vertu en quelque sorte. S'il y en a une dans une œuvre littéraire, c'est pas l'injonction de valeur morale ou de leçon de l'histoire, c'est de faire correctement le travail du roman en tant qu'œuvre d'art. C'est-à-dire que dans la composition, dans le langage que vous utilisez, vous êtes effectivement dans le domaine d'un usage esthétique du langage écrit. Voilà. Et c'est là que réside votre tâche. Voilà. En même temps, on est un peu grave parce que des fois, le roman peut s'inventer de façon peu conforme à ce qu'au départ, par exemple, dans une scène, j'avais en tête. Vous voyez, quand les personnages sont à Paris, vous savez, Gabrielle Conti, c'est un grand reporter, c'est une femme assez remarquable. Elle représente dans le roman, au fond, toute une génération de grands reporters qui va de Louise Weiss à André Violis, qui étaient des femmes d'un talent et d'un courage assez exceptionnel. Et elle écrit tous les matins pour un journal qui vend 2 millions d'exemplaires. Ça laisse les journalistes d'aujourd'hui rêveurs. Et ça lui donne du pouvoir. Et son patron dit d'elle, elle fait peur à Poincaré. Et en même temps, il est fasciné par elle, parce qu'il dit, vous vous rendez compte, une femme qui écrit comme Maupassant. Il en verra d'autres, hein, mais il est interloqué en quelque sorte par un personnage pareil. Évidemment, quand elle arrive à Nabès, Gantier, qui est le grand colon, qui est un peu un donjon de protectorat en même temps, quoi, il faut bien le dire, n'a qu'une envie, c'est, comme on disait à l'époque, de l'inscrire à son tableau de chasse. Oui. Évidemment, ce n'est pas le genre de chose qui plaît particulièrement à Gabriel. Et comme disent les jeunes aujourd'hui, il se prend des râteaux pas possibles. Voilà. Sauf que quand ils sont à Paris, il obtient le droit de monter prendre un dernier verre chez Gabriel. Alors il se sent plus Gantier. Et moi, je vais décider de faire une scène de séduction. Voilà, comme ça. C'est un peu une des possibilités du roman. Je ne savais pas du tout quelle serait la tonalité de cette scène. Elle est assez vite quand même devenue un peu amusée. Donc Gabriel se retire quelques instants. Gantier est dans le salon. Alors c'est un stratège, hein, occupation du terrain. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je me mets dans le canapé. Oui, mais alors si tu t'installes dans, si elle s'installe dans le fauteuil, t'as pas l'air malin. Donc il gamberge comme ça, il se demande pas ça. Alors, j'avançais dans la scène comme ça, je la travaillais jour après jour, mais ça n'avançait pas. Pourquoi ? Parce que c'est là que je reparle de vertu esthétique en quelque sorte. Vous avez, quand vous écrivez un roman avec un minimum d'exigence, vous avez une injonction d'inventer. C'est-à-dire qu'il faut quand même éviter de repasser par des lieux communs, par des topos, par des scènes qui ont déjà été vues 36 fois, lues dans des romans, vues au cinéma ou au théâtre. Et chaque fois que j'avançais, que j'essayais de trouver quelque chose pour faire avancer ma scène, au bout d'un petit moment, je me disais, mais non, ça on l'a déjà dans, ça, voilà. Donc c'était très très dur d'essayer d'inventer quelque chose qui soit dans la logique d'une scène de séduction amoureuse, tout en étant un peu singulière par rapport à la tradition de la scène de séduction amoureuse. Et j'y arrivais pas. Et j'étais pas très loin de l'abandonner, parce que c'est de façon assez malheureuse. Et puis à un moment donné, je me suis retrouvé avec une bassine dans les mains. Petite bassine dans les mains. Les objets sont bons. Ils relancent en quelque sorte. Je ne sais pas du tout d'où est venue cette bassine. Je serais incapable de le dire. Mais voilà, j'avais une bassine dans les mains. Et là, soudain, la scène, effectivement, est repartie. Elle s'est relancée. Elle a pris une tonalité qui a été une tonalité plus comique que ce que je pensais au départ. Et elle est devenue en quelque sorte une scène à part entière. Mais vous voyez, on est vraiment dans l'invention. On est vraiment dans l'invention. On est vraiment dans quelque chose qu'on n'avait absolument pas prévu d'écrire. C'est ça qui est absolument délectable quand on écrit. C'est ce qui fait que je mets 5 ans et demi à écrire des romans, parce que au fond, j'aime tellement cette phase d'écriture que j'y renonce assez difficilement.
Merci beaucoup. Pour conclure cet entretien. Comment conseillez-vous d'aborder ce livre à leur futur lecteur ? Dans quel état d'esprit ?
Il faut s'embarquer. Je dirais tout simplement, il faut s'embarquer. La lecture du roman, c'est une forme de rêve éveillé. Il faut se laisser prendre au plaisir de la fiction et puis avancer avec les aventures des personnages.
Merci beaucoup, Eddie Cadour.
C'est moi qui vous remercie.
Je confirme qu'avec ces personnages, ils sont en très bonne compagnie. Et c'est pourquoi c'est très volontiers que je rappelle les références de l'ouvrage, Les Prépondérants d'Eddie Cadour, aux éditions Gallimard, dans la célèbre collection Blanche, bien sûr. Et roman qui a obtenu le Grand Prix du roman de l'Académie française. Merci beaucoup, Eddie Cadour.
Merci. Thank you.